Pour le FIBD 2024, on se tourne vers l'histoire et la science et pour cela nous recevons le dessinateur Jean-Benoît Mébec. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes originaire de Grenoble et habitez maintenant en région toulousaine. Vous avez été graphiste puis avez décidé il y a une dizaine d'années de vous consacrer pleinement à la bande dessinée en tant qu'artiste et enseignant. Votre bibliographie tourne autour de sujets de société et contient 7 ouvrages que vous avez pour la plupart scénarisés. Et le dernier s'appelle Eureka, une histoire des idées scientifiques durant l'Antiquité, scénarisé, dessiné et colorisé d'après les textes de Pascal Marchand, toulousain lui aussi et professeur d'université. Alors, première question, comment est né ce projet et comment vous êtes-vous rencontré avec Pascal Marchand ?
Alors, je connais Pascal Marchand depuis plusieurs années, en fait, quand j'étais graphiste dans le monde associatif. Enfin, en fait, lui, il s'occupait de la communication d'une association, moi, je faisais les affiches, donc on se connaissait comme ça. Comment est né Épistémé ? Ben, moi, j'ai fait juste avant un bouquin qui s'appelle Cosmobacchus, qui traite des dérives sectaires, en fait. Au final, ça partait sur la biodynamie, le vent biodynamie, puis je suis arrivé là-dessus. Et donc, ça m'a un peu plongé dans le monde de la zététique, du scepticisme scientifique et de l'esprit critique, en fait. Et j'ai beaucoup critiqué les dérives sectaires. Et je me disais, au bout d'un moment, bon, il faudrait faire quelque chose quand même de plus positif que de critiquer. Et je savais pas trop quoi. Et Pascal, lui, dans le même temps, mais il enseignait l'histoire des sciences depuis une trentaine d'années, en fait, à la fac de Toulouse. Pendant le confinement, il m'a raconté qu'il avait été confronté au fait qu'il se trouvait sur un ordinateur pour ses étudiants, où il leur racontait ses histoires, mais il lui manquait des supports visuels, en fait. Il s'en rendait compte que ça serait mieux. Et c'est là que, me connaissant, il a eu l'idée de le faire en BD, et donc il m'a proposé. Et moi, comme j'avais cette problématique aussi sur l'histoire des sciences et des connaissances et des croyances, quoi, ça m'a bien parlé, donc on est parti là-dessus, en fait.
Le premier tome d'Épistémé, c'était un voyage dans le temps et l'espace, documenté, cartographié, qui commence par une attaque de trolls, dont vous parliez. Ces trolls ont des propos et des discours qui font écho à ce qu'on peut lire donc sur Internet ou entendre dans certains médias ou même repas de famille. C'était une urgence aussi de répondre de manière scientifique à ces opinions anti-sciences répétées en boucle par les trolls, pour vous ?
Oui, bah c'est ça, comme je vous disais, j'étais quand même un peu perturbé. En fait, j'avais pas trop conscience de ça avant de faire un Cosmobacchus, oui. Mais en le faisant, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème, quoi. Et puis, j'ai commencé en 2015 et ça m'a pris jusqu'en 2020 à peu près. Donc, il y a eu une montée de toute façon dans cette période, il y a eu le Covid et tout. Et donc, il y a eu une montée de toute cette anti-science et même ces réalités alternatives, presque, on pourrait dire. Hein. Qui se sont imposés notamment par les réseaux sociaux. Et là, je raconte souvent, mais des fois je fais du blabla car, je conduis des gens, et puis dernièrement, j'en ai eu plusieurs qui m'ont tenu des propos comme ça, vraiment complotistes, vraiment étonnants, quoi, qui vont assez loin des fois, donc ça m'a un peu fait peur, quoi. Donc ouais, pour moi, c'est important de recadrer un peu les choses, parce que le problème de la science, c'est qu'elle est souvent confondue avec la technologie, avec la technique, et du coup avec la politique, parce que les technologies, c'est des décisions politiques, et du coup avec le capitalisme, enfin tout ça est mélangé. Et c'est bien de faire un distinguo et de dire non, la science, c'est les théories scientifiques, c'est la description de l'univers, c'est ça, et après le reste, c'est des décisions humaines, de gens qui décident de faire des choses, mais c'est autre chose, quoi. Parce que chez les complotistes, en fait, il y a une grosse méfiance vis-à-vis du pouvoir, des élites, voilà. Et en fait, toute leur défiance vient de là, parce que dès que quelqu'un qui est perçu comme ayant du pouvoir dit quelque chose, hop, ils disent l'inverse, en fait. Ils disent non, c'est pas vrai, voilà. Donc là, le projet Épistémé, c'est pour montrer comment est née la science, et c'est pas des élites qui ont décidé des choses, c'est vraiment des choses qui se sont construites petit à petit au cours des âges par des gens très différents, qui ont eu des histoires extraordinaires et qui avaient eux-mêmes des croyances très étrange, mais petit à petit, en affinant, voilà, on arrive à faire un édifice qui est la science et qui est ce qu'il est, quoi, qui décrit l'univers, en fait.
Oui, je cite d'ailleurs Pascal Marchand dans la bande dessinée. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui cherchent à avoir raison et ceux qui cherchent à comprendre. Donc, vous l'avez dit, on sait que les réseaux sociaux et Internet ont un peu décuplé le fait que voilà, des discours un peu trolls se propagent, mais on sait aussi que ces discours existaient quand même avant, de manière plus minoritaire. Est-ce que vraiment on peut noter un avant et un après Internet?
Oui, alors là Pascal pourrait vous en parler plus que moi, parce qu'il fait beaucoup de psychologie sociale, notamment sur Internet. Alors oui, c'est sûr, disons que Il y a toujours eu effectivement des discours complotistes, il y a toujours eu des rumeurs, on appelait ça des rumeurs avant, oui. des rumeurs étranges et tout. Et là, bon, bah, elles existent toujours, mais elles sont décuplées, puis il y a des effets de bulle, c'est-à-dire que les gens se retrouvent par les algorithmes à ne voir que des gens qui pensent comme eux. C'est quand on commence à faire des recherches ou à parler d'un sujet, bah, les algorithmes vont rechercher tous les gens qui parlent du même sujet, on finit par ne voir plus que ça, donc on a des biais de confirmation partout, et on ne voit plus que ça. Et en plus, ça permet donc toujours les réseaux sociaux, permet de mettre en contact des gens qui seraient jamais rentrés en contact sans eux. Donc il y a des phénomènes de boule de neige comme ça, donc il y a peut-être pas plus de complotisme à la base, mais le résultat c'est que c'est vraiment amplifié par ces technologies-là. Quoi.
Ouais. C'est que monsieur tout le monde avant Internet pouvait se confronter à son collègue de travail, à sa boulangère qui allait peut-être lui tenir un discours contraire, alors que maintenant, voilà, comme vous l'avez dit, le biais de confirmation il est dans le fait que les gens se montent la tête,
ah oui, c'est ça, ouais.
et s'isolent de plus en plus en fait, notamment à cause des algorithmes.
Par communauté quoi, ouais.
Et justement, dans ce premier tome qui s'appelle donc Eureka, vous remontez le temps de la préhistoire à la Grèce antique en passant par l'Égypte à la rencontre des personnages historiques plus ou moins connus et qui ont façonné la science et les mythologies, qui ont parfois la même racine, pour en inspirer d'autres au travers des siècles, des personnes qui ont tenté de comprendre le monde et de l'expliquer à leurs contemporains. L'occasion de rappeler qu'une découverte scientifique de l'Antiquité, même si elle peut paraître archaïque aujourd'hui, constitue tout de même, au regard de l'histoire des sciences, une avancée majeure à qui l'on doit notre avancée technologique actuelle. Cette approche épistémologique de Pascal Marchand, c'était également la vôtre, ou bien les échanges avec ce professeur d'université vous ont apporté un nouveau point de vue ?
Ah, bah, disons que moi j'étais très ignorant, hein, donc il m'a évidemment apporté vraiment tout un univers que je soupçonnais, on va dire, mais que je connaissais pas, quoi, en gros. Hein. Et là, le fait que souvent les scientifiques, enfin ce qu'on appelle maintenant les scientifiques, s'appelaient à l'époque les philosophes de la nature, on va dire, souvent avaient eux-mêmes des croyances complètement délirantes, par ailleurs ou en même temps. Voilà, par exemple, Pythagore est celui qui a inventé la secte des pythagoriciens, c'est peut-être une des premières sectes qui existent, a inventé la notion d'ésotérisme et d'exotérisme, voilà, avec des grades et des hiérarchies dans sa secte. Donc c'était un gourou, en fait. Et bon, on n'attend pas ça de Pythagore, à la base, quoi.
Oui, c'est un peu étonnant. On connaît l'homme de science au collège, mais après, voilà, et apparemment, oui, j'ai lu dans une, je crois, c'est une bande dessinée de Marion Montaigne où il s'explique qu'il avait une sainte horreur, une phobie, je crois, de certains végétaux, je crois.
Les fèves, oui.
Les fèves, voilà.
Ah oui, oui. Ah ben, vous l'avez peut-être lu aussi. Je sais pas si Marion en parle, mais on en parle beaucoup dans Épistémé. Ouais, on sait pas trop même pourquoi, hein. C'est un mystère pythagoricien, oui. En fait. Voilà. Alors, on esquisse des tentatives d'explication. Notamment, moi, c'est moi qui ai fait dire à Hippocrate que, enfin, je l'ai lu quand même, mais qu'il y a une maladie qui s'appelle le favisme et que c'est possible que Pythagore ait été atteint de ça, ce qui pourrait expliquer pourquoi il les détestait, mais que il déguisait ça souvent sous des atours ésotériques, quoi. Voilà.
On sent que dans chacun de vos domaines, vous avez tous les deux un angle ou un bagage sérieux sur les sujets que vous traitez, un bagage qui date donc d'avant le projet. Est-ce qu'il a fallu faire des recherches spécifiques pour cet ouvrage? Et si oui, combien de temps ça a pris et comment avez-vous fait?
Alors, bah, je sais que Pascal a réécrit en partie tous ses cours pour la BD, donc il a fait effectivement des recherches, parce que le but, c'est d'avoir... en fait, on voulait pas faire un catalogue de savants ou de théories, quoi, l'une après l'autre, comme ça, on voulait que ça qu'il y ait des liaisons, que ça s'articule de façon fluide, parce que dans la vie, ça se passe comme ça, quoi. On n'a pas un catalogue, on a des choses qui se passent, des phénomènes qui s'imbriquent, l'un qui découle de l'autre, voilà. Donc il a dû faire des recherches pour obtenir un peu plus ça, et ce qui lui a d'ailleurs fait découvrir des logiques internes, des choses, ça il pourrait vous en parler mieux que moi, mais voilà. Et donc il a réécrit son cours dans cette optique-là, en me disant, moi je lui ai demandé de me donner un nombre de pages par personnage, en fait. Voilà, sinon j'étais un peu dans le flou, ne sachant pas quelle importance il souhaitait donner à quel personnage. Et ensuite, moi, avec ça, j'ai fait une narration, en fait. Et pour ça, j'ai fait aussi des recherches de mon côté, donc de personnages connexes, moins connus, pour mettre un peu de liant dans tout ça, le gendre d'Hippocrate, par exemple, enfin des gens comme ça, la copine d'Épicure, Léoncion, qui était une philosophe et tout, que Pascal connaissait pas, mais moi que j'ai cherché en trouve. J'ai trouvé en cherchant, bon, moi je cherche surtout sur Internet, hein, mais il y a des choses intéressantes aussi. Voilà. Et donc, il m'a permis d'introduire une narration un peu plus fluide, et puis de trouver des choses aussi que Pascal connaissait pas. Donc, des fois, je suis un peu content de lui montrer des choses.
Et justement, concernant ce processus de vulgarisation, comment est-ce que vous avez vécu l'exercice de devoir simplifier pour les novices comme moi et dans d'autres, sans pour autant tomber dans l'inexactitude? C'était une ligne un peu fine, peut-être?
Oui, alors la BD est assez dense d'ailleurs.
Hein, oui, 200 et quelques pages.
200 pages, avec beaucoup de textes et beaucoup d'informations dedans. Voilà. Donc, on nous dit souvent qu'on peut pas la lire en entier d'un coup, ça c'est sûr. Je disais à quelqu'un comme c'est comme un bon whisky, faut le boire à partie gorgée, parce que c'est un peu fort.
C'est infusé un peu.
Voilà, parce que moi j'essaie de mettre les informations que j'avais. Tout en effectivement les simplifiant, donc ça demande un peu de travail, quoi, hein, voilà, il faut juste d'ailleurs des fois l'éditeur nous a aidé aussi à reformuler certaines choses, notamment sur un théorème de Clyde sur la fin. On parle de Clyde, c'est une partie qui est un peu dense et il y avait un truc qu'il comprenait pas, donc on l'a réécrit jusqu'à ce que ça soit plus compréhensible.
D'accord.
Ce qui est normal, ce qui est le travail, quoi. Donc il a fallu travailler simplement.
Ça marche. Parlons maintenant de la partie illustration, dessin. Est-ce que vous êtes parti sur des techniques traditionnelles, plutôt numériques, au niveau de l'ancrage, au niveau du...
Alors l'ancrage j'ai fait à la main, oui, c'est du pinceau et de l'encre de Chine.
D'accord.
Et après les couleurs sont faites à l'ordinateur, voilà.
Et justement, la couleur, il y a un parti pris, une dominante bleue qui donne un petit peu ce côté, qui accompagne très bien cette thématique un peu du voyage dans le temps et du côté un petit peu surnaturel, sans me parler. C'est un choix que vous avez fait vous, c'est quelque chose que vous avez décidé en commun?
Oui, c'est moi qui ai pensé à ça. Disons que sur Cosmo Bacchus, j'avais déjà pris le même parti pris, c'est des bouquins en bichromie. Et donc là, on va faire pareil, c'est-à-dire, normalement, il y aura plusieurs tomes et chaque tome aura sa couleur normalement.
D'accord.
Et moi, alors la Grèce antique, j'ai pas une explication toute faite à vous donner pourquoi le bleu pour cette partie-là, mais c'est ce que ça m'a évoqué tout de suite. Alors il y a peut-être la Méditerranée, peut-être, je sais pas, comme c'était quand même des grands intellectuels, il y a cette couleur bleue qui est un peu une couleur de l'intellect ou du rêve ou de la mythologie aussi. Voilà. En tout cas, c'est ce que ça m'a évoqué, parce que la quadrice aurait été trop compliqué, trop long à faire sur 200 pages. Oui. Juste du noir et blanc, ça aurait été vraiment un peu tristouné. Donc une couleur, c'est bien. Et là, le bleu s'est imposé un peu de lui-même, en fait. Voilà.
D'accord. Au niveau du ressenti, quoi.
Ouais.
Justement, vous l'avez dit juste avant, Eureka, c'est le premier tome de la série. Vous annoncez dès le début des suites qui traiteront sur le même principe de quatre périodes historiques supplémentaires. La période médiévale, la Renaissance, le 19e siècle et enfin le 20e jusqu'à nos jours. À quelle étape de pré-production ou de production en sont les prochains tomes?
Alors, du côté de Pascal, c'est bien avancé, parce que le 2 est fini.
D'accord.
Le 3 est bien avancé aussi, peut-être pas fini, mais le 4 et le 5 un peu moins. Le 5 est surtout un peu moins, mais le 4 doit être pas mal avancé. Et moi, j'attends qu'il me donne simplement le découpage en planche pour pouvoir commencer, en fait.
Voilà. D'accord, ça marche. Le FIBD, le Festival International de la Bande Dessinée, c'est un événement auquel vous assistez souvent, régulièrement?
Là, ça fait 10 ans que j'y vais tous les ans, ouais.
D'accord,
ouais.
C'est l'occasion de rencontrer, on va dire, la profession et...
Oui, j'y vais en tant qu'auteur, déjà, parce que je suis invité par mes éditeurs. Mmh. Et puis, c'est un événement très sympa, ça permet de rencontrer des copains. Et puis, moi, je fais partie du SNAC, le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs. Donc, ce matin, j'étais à un petit déjeuner sur l'IA, notamment. Et oui. Puis, il y a toute une programmation que je vous invite à regarder sur le Facebook du SNAC. Voilà. Et donc, c'est une façon aussi de retrouver la profession, donc les copains, mais aussi la profession dans ces problématiques-là, quoi.
Oui, et d'ailleurs, aux jeunes autrices et auteurs qui souhaiteraient vous rejoindre, on va directement sur la page du SNAC, on prend contact avec vous et...
Oui, bien sûr, oui, absolument. Le mieux, c'est d'aller nous rencontrer, du coup, ça se passe à l'espace des auteurs au CCI Charente.
Oui.
Donc sur la page du SNAC, il y a toute la programmation, donc vous pouvez venir et puis aller voir les gens qui sont là, et puis voilà.
Concernant les dédicaces, y a-t-il des séances de prévues?
Oui, alors j'ai un agenda assez chargé puisque je suis à moitié chez la boîte à bulles et à moitié chez Edola.
D'accord.
Pour Cosmo Bacchus. Donc ben, tous les jours je fais un peu des deux quoi. En gros, là c'est pareil, vous pouvez regarder mon Facebook où j'ai mis en ligne mes horaires de dédicaces. Voilà.
Impeccable, comme ça au moins ce sera clair et limpide. On a parlé des projets en cours et des projets futurs. Est-ce qu'il y en a d'autres à part la série Épistémé?
Bah écoutez, c'est un gros projet, donc pour l'instant j'ai pas prévu grand chose d'autre. J'ai des idées, je me dis peut-être dans un interstice je pourrais faire autre chose, parce que c'est vrai que c'est un peu, je veux pas être monomaniaque non plus, mais bon, je peux pas trop en parler parce qu'il y a vraiment rien de vraiment fait quoi. Mais oui, j'ai quelques idées. Je me suis lancé, j'ai participé à un concours de nouvelles et puis du coup je me suis mis à écrire des choses, mais bon voilà, ça c'est pareil, c'est
ça pourra servir plus tard effectivement.
Voilà.
Une fois que les 4 tomes seront, les 4 derniers tomes de la série seront
oui.
Bon courage avec ça du coup. Et bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un bon festival. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions.
Et bien merci pour votre invitation.